Souvenez-vous de ce boomerang historique, la 1000e émission, s'il vous plaît, avec Jacques Dutronc. C'est parti. Le meilleur, a priori, c'est un mot très pénible, le meilleur parce qu'il implique un classement ou une comparaison, une hiérarchie, une preuve même de domination. S'il y a un meilleur, c'est qu'il doit bien y avoir un pire. Mais moi, vous me connaissez, j'ai toujours préféré le pire, le cancre, le faible, le perdant, le dernier. Alors le meilleur, vous pensez bien, je le déteste sur le papier. Mais il arrive que ce mot se détache soudain de cet esprit de compétition si en vogue aujourd'hui. Il arrive que le meilleur, ce soit tout simplement celui ou celle qui a plus de cœur ou de bonté, de bienveillance, de générosité. Et là, merveille de notre époque, il n'est plus du tout de bon ton d'être le meilleur, ou même de donner qui sait le meilleur de soi. Le défi de Boomerang, depuis 1000 émissions pourtant, c'est ça, c'est d'aller chercher à contre-temps et à contre-emploi le meilleur de celles et ceux qui nous font l'amitié d'être là. C'est de leur donner le temps, leur proposer un questionnement pour que surgisse leur meilleur. C'est de faire, enfin et surtout, le pari du sens, plutôt que celui du sensationnel qui ne met en valeur que celui qu'il provoque à chaque son appréciation du meilleur. Pour moi, ce sera vous, ce qui sommeille en vous, ce qu'il s'agit d'aller chercher, parfois contre vents et marées.
Boomerang, Boomerang, Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Serait-il exagéré de dire que mon invité d'aujourd'hui est le meilleur? Lui dont le meilleur sur plus de 50 ans vient de paraître en disque sous le titre Fume, c'est du best. Il nous a fait la gentillesse d'accepter d'incarner ce matin la 1000e émission de notre programme. Bonjour, Jacques Dutronc.
Oui, Jacques Dutronc, himself, c'est moi-même. Et je suis ravi aussi d'être avec mon ami Augustin. Voilà.
Merci beaucoup.
Et surtout pour la 1000e.
D'être là. Qu'est-ce qu'il y a de meilleur en vous, à votre avis?
Ce qu'il y a de meilleur en moi, non. Ce qu'il y a de moins mauvais, quoi, dirons-nous. Non, je vois pas.
Votre cœur, peut-être?
Non, il n'est pas très bon. D'ailleurs, vous pouvez en parler à Monsieur Hu, qui est mon cardiologue, qui écoute régulièrement votre émission. Non, j'ai un problème d'ailleurs au point de vue cœur, mais il est là quand même.
Et qu'est-ce qu'il y a de pire en vous alors, à votre avis?
Ah, de pire, c'est par moments ma mauvaise foi. J'adore ça. J'aime beaucoup les gens de mauvaise foi. Donc, je ne veux pas dire par là que je m'admire, que je m'aime beaucoup, mais j'ai un certain respect pour les gens de mauvaise foi.
C'est-à-dire?
J'ai d'un courage énorme de croire à des choses absolument invraisemblables. C'est formidable.
Et d'un point de vue musical, tout est bon chez Dutronc?
Ah, comme le cochon. Certains me parlent des cactus, admettons, là, parce que les mots me font parce qu'il y a aïe 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 ouï ouï ou merde in France, et parce qu'il y a cacapoum. Moi je veux bien, mais enfin il n'y a pas que ça. Mais je ne peux pas dire que c'est le meilleur, mais il y a des chansons qui sont redoutables. Tant mieux d'ailleurs, parce que ça permet de rehausser les plus ou moins bonnes.
Et ce serait quoi une bonne chanson pour vous, justement?
Une bonne chanson, c'est celle qui vous fait vibrer. Ou qui peut vous mettre en joie, ou qui vous tire quelques larmes, ou des souvenirs, ou des instants, des odeurs, des machins, enfin des climats. Enfin, ça, c'est une belle chanson, une bonne chanson. Et en principe, il faut une entrée, un pont, une explication, des refrains. Mais pour ça, il vaut mieux des chansons d'amour, c'est plus facile à construire. Il me semble. Hein.
De votre île de beauté, Jacques Dutronc, sur laquelle on se trouve aujourd'hui, quel regard est-ce que vous portez sur notre époque?
Ah ben, pas grand-chose, parce que d'un côté, je vois la mer et de l'autre côté, la montagne. Et qu'est-ce qu'il y a au milieu? Ben, il y a la terre. Je suis plus près de la terre que de la montagne et de la mer, bien entendu. La terre, c'est mon truc. Je suis taureau, d'ailleurs, c'est évident.
Un regard amusé, j'ai l'impression.
Quand oui, non, parce que je suis obligé de mettre les mains dedans, hein, par moment, si je puis dire. Je ne vais pas dire les mains dans la merde ou dans le cambouis, mais dans la terre. Et ça me, je ne veux pas dire que je reprends racine, vu mon nom, mais ça me régénère.
C'est intéressant quand même, parce que notre époque, vous l'avez incarnée, et pour la 1000e de cette émission, on n'hésite pas, Dutronc, en quelques titres, c'est ça.
700 millions de Chinois, et moi, avec ma vie, mon petit schéma. Mon mal de tête, mon poids au foie, j'y pense et puis j'oublie. C'est la vie.
Et puis évidemment ça.
Ah ben oui, ça c'était évident.
Je me lévis de chez Castel, je me lévis de chez Régine, je me lévis qu'on voit dans elle, je me lévis les magazines.
Et une autre quand même.
Bébé, une autre. Oui.
Sois jaloux, pas du tout.
mes genoux.
Et puis ça.
Fais pas si, fais pas ça, viens ici, mets-toi là. Attention, prends pas froid ou sinon gare à toi. Mange ta soupe, allez, brosse-toi les dents. Touche pas ça, fais dodo, dis papa, dis maman. Fais pas si, fais pas ça, atata, prout, prout, cadet.
Allez, derrière c'est pour moi celle-là.
Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille.
C'est étonnant quand même, Jacques Dutronc, parce que je le disais, vous avez incarné la bande-son d'une époque, vous avez donné le sentiment d'être au cœur de l'époque, et aujourd'hui, pourtant, vous avez choisi de vivre un petit peu à l'écart. Mm-hmm. Pourquoi ?
Je suis bien ici, à côté d'Île-Rousse, où il y a 300 jours de soleil garanti. Non, mais j'ai toujours été un peu à l'écart de tous ces, milieux-là, hein. Sauf à une certaine époque où j'étais musicien, enfin guitariste. Là, j'étais plus en contact avec plein de gens, mais sinon, non, j'ai pas trop de fréquentation. Je fréquentais plus volontiers un ébéniste qu'un chanteur, par exemple.
Vous êtes pas mondain, hein.
Non, pas du tout. Oh, non, je déteste. C'est-à-dire que je préfère voir un film.
Une journée de Jacques Dutronc ici, ça ressemble à quoi ?
À rien. Enfin, ça ressemble plutôt à celle de la veille. Et c'était quoi la veille ? Ben, la même chose qu'aujourd'hui, et donc ainsi de suite. Et demain sera fait de la même chose. Non, mais il y a quelques variantes par moment. Il y a une écharde d'un seul coup, alors avec risque de tétanos. On vérifie si le tétanos est encore valable. Et il est toujours valable.
Quand vous jardinez, quand vous cuisinez ?
Oui. Ah non, je cuisine jamais. Non, je préfère manger que de faire la cuisine. Il vaut mieux d'ailleurs.
Il vous arrive jamais de vous ennuyer ?
Oh, bah si, mais je m'en rends pas compte.
Qu'est-ce qui vous plaît en Corse ? La lumière, le parfum de l'air, la mer ?
La mer, c'est une sorte d'évasion. Non, mais ça évite de regarder les périphes, la mer, parce que ça bouge par moments. Bon, ça devient blanche de colère, parce que le Mistral et le Libetch font que ça bouge. C'est un truc vivant un peu, mais le vent ici fait bouger les arbres. Enfin bon. Non, mais je suis bien ici, mais on est tellement bien ici que c'est difficile de composer. Parce que tout le monde me parle dans le genre, en Corse, vous devriez composer, tout ça. C'est un climat qui fait que. Mais c'est trop beau autour de soi. On n'a pas envie d'essayer de faire aussi bien, je crois. On ne peut pas y arriver de toute façon.
Alors, ça voudrait dire qu'on compose que quand on est inquiet, mal, pas bien.
D'ailleurs, plus souvent, les gens étaient dans des mansardes ridicules, maudits, etc., avec la pluie sur la petite vitre. Ça, c'est beau aussi, ça, le bruit de l'eau sur une vitre comme ça, c'est beau.
Et puis aussi parce que vous êtes loin de Paris, parce que vous êtes un Parisien, Jacques Dutronc, et pas seulement à 5 heures. Quand la ville s'éveille, vous y êtes né, au milieu de la Seconde Guerre mondiale, vous y avez grandi. Aujourd'hui, elle représente quoi pour vous, cette ville, Paris ? Sont des souvenirs ?
Oh, il n'y a pas que des souvenirs, non, mais j'adore y retourner. Contrairement à ce que l'on peut croire, Paris n'a pas trop changé, hein, par rapport à une certaine époque. Alors qu'ici, ça change toutes les minutes. Non, mais Paris manque par moments, ouais.
Il ressemblait à quoi, le Paris des années 40 et 50, dans lequel vous avez grandi ? Vous vous souvenez ?
Oui, d'autant plus que j'ai appris à marcher pendant les alertes de bombardement, dans le métro Chaussée d'Antin. C'est là que j'ai fait mes premiers pas, ouais. Déjà, pour préciser, je suis né dans un panier à salade aussi, c'est intéressant. Même. Dans le panier à salade qui emmenait ma mère je ne sais où. Et je sais pas, j'ai été déclaré dans le 17e. Et ensuite, donc, dans le 9e, j'étais rue de Provence, et je prenais le métro tout seul pour aller à l'école, rue du Faubourg Poissonnière, par là.
Quel genre d'enfant est-ce que vous étiez ?
Je ne sais pas, faut demander à la boutique SIDA, S-Y-D-A, qui, Sida, à l'époque, avec Cado, C-A-D-O-T, étaient les deux grandes boulangeries de Paris. Et Sida était pile en face de mon immeuble. Et donc, il me couvrait de religieuses gigantesques, d'éclairs au chocolat, genre la longueur d'une baguette. Et... Alors que j'ai horreur des gâteaux, mais c'est pas grave. Je leur ai dit plus tard, mais j'ai été quand même un enfant très bien élevé, puisque je les ai mangés pour leur faire plaisir.
Et vous étiez déjà un petit peu à l'écart, ou pas ?
Oui. Je préférais jouer seul qu'avec les autres. Le cow-boy indien, ça ne m'intéressait pas du tout. Je préférais jouer avec mes Dinky Toys tout seul. Me créer des embouteillages personnels, et voilà.
Petit,
des minutes dans notre vie. Mini-moc et mini-jupe, mini-moche et lilliput. Il est mini-docteur Schweitzer, mini-mini, ça manque d'air. Mini-jupe et mini-moc, miniature de quoi je me moque. Ministère et terminus, minimum et minibus. Petit, 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 tout est mini dans notre vie. Mini-moc et mini-jupe, mini-moche et lilliput. Il est mini docteur Schweitzer, mini mini ça manque d'air. Mini mini mini, mini 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 mini. Moi je préfère les maxi, maxi moque et maxi jupe. Maxi moche et maxi pute, il est maxi docteur Schweitzer. Maxi, maxi, ça respire l'air. Maxi, terre et terre, maxus. Maximum et maxibus. Maxi, terre et terre, maxus. Maximum et maxibus. Maxi, terre et terre, maxus. Maximum.
Jacques Dutronc, invité exceptionnel de Boomerang ce matin. Millième émission. Et j'aimerais qu'on parle de musique. Quelle place elle a, la musique, dans votre vie, encore aujourd'hui?
La musique, ça a commencé très tôt, grâce à mes parents, enfin à mon père en tout cas, qui était pianiste, puisqu'il faisait des bals à la Bastoche, à la Bastille, rue de Lappe. Donc il était déguisé, parce que la plupart de ses dactylos, on appelait ça des dactylos, venaient guincher dans ces trucs-là, donc il mettait des sombreros, des faunés, des conneries. Donc j'étais bercé par le piano, que je transformais, moi, en terrain de jeu avec mes Dinky Toys, donc ça le faisait chier. Moi, ça m'emmerdait, parce que c'est pas la musique qui m'emmerdait, mais c'est le fait qu'il désintègre mes embouteillages, mes plans de fervent, etc.
Vous voyez à quoi ça tient.
Oui, donc grâce à lui, et mon frère aussi, qui hélas m'a quitté, nous a quitté, et lui aussi jouait de la guitare, etc. J'avais une famille de musiciens aussi, mais plus ou moins. Tout le monde, c'était peut-être de bon ton de jouer d'un instrument dans certaines familles, je ne sais pas.
La guitare, vous en jouez encore, Jacques?
Non, je ne joue plus du tout. Il vaut mieux, d'ailleurs.
Pourquoi?
Parce que je ne sais plus en jouer, non, je ne sais plus en jouer. Enfin, Thomas est là pour me remplacer, il joue très très bien.
Quand est-ce que vous l'avez commencé, la guitare, vous? Par votre frère?
Ouais, c'est lui qui... Enfin, c'est par mon frère, oui et non, puisque c'est lui qui possédait une guitare. Moi, je n'avais rien. Mes parents m'avaient offert à 4 ans un violon. Et là, je crois qu'ils me l'ont enlevé parce que c'était c'est pire qu'un tambour, je crois. Ah oui, c'est pire. Donc, j'ai été malade à un moment. Je ne pouvais pas bouger du tout. Donc, je suis resté, je ne sais pas combien de temps, 6 mois chez moi, au moins 3 mois allongé. Donc, j'ai appris la guitare comme ça.
C'était son rêve d'être musicien, à votre père?
Comme il a toujours dit, c'est formidable. J'ai joué du piano pendant 80 ans, à peu près, j'ai jamais su en jouer, quoi. Il a dit, c'est comme ça, c'est du talent, quand même.
Vous diriez pareil de vous avec votre guitare, ou pas?
Oh, ben non, il jouait bien. Je voyais... Il emmerdait ma mère, parce que lorsqu'il déchiffrait toutes ces énormes partitions de Bach et tout ça, il disait la musique parfaitement, il chantait en même temps, ça faisait... ça, entrecoupé de coups de briquet, parce qu'il fumait des boyards maïs... Donc ça s'éteignait tout le temps, donc voilà, ça énervait absolument ma mère tout le temps.
Qu'est-ce qui vous a appris, en fin de compte, musicalement, votre père?
Il m'a appris à aimer la musique, en tout cas, mais il était ouvert à toutes les musiques, au contraire.
Et qu'est-ce qu'il jouait sur son piano?
De tout, puisque comme il faisait des balles, alors c'était genre passo-doble, non mais pas à la maison, hein, dans les balles, genre Balajo, ou chez... comment il s'appelait je sais plus les noms. Enfin bon,
qu'est-ce que vous écoutiez, vous, quand vous aviez 13, 14, 15 ans?
Beaucoup de classiques, oui. Beaucoup. Alors, ce que j'ai écouté peut-être le plus, c'était le concerto numéro 5 de l'Empereur, de Beethoven. C'est celui que j'ai dû écouter le plus. Déjà l'Empereur, donc déjà la Corse, peut-être. Ouais. Allez savoir. Je sais pas si c'était lui d'ailleurs, enfin moi ça fait rien.
Et pourquoi celui-là?
Je sais pas, non mais j'en sais rien, parce que je connaissais peut-être pas d'autre chose. J'aimais beaucoup aussi le carnaval des animaux, parce que j'avais un oncle qui était très drôle d'ailleurs, le frère aîné de, par rapport à mon père. Lui, il jouait du violoncelle et nous avions droit tous les dimanches à la mort du cygne, justement, de Saint-Saëns, du carnaval des animaux. C'était épouvantable. Mais bon, ça me fait des souvenirs.
Je suppose que pendant votre adolescence, vous n'écoutiez pas du Beethoven et du Saint-Saëns. Quand arrivent les surbooms, vous écoutez quoi?
Ah, à l'époque, il y avait le... Oh, je sais plus. Bon, il y avait Presley, bien sûr. Presley, Nils Sedaka aussi, beaucoup. Au Carol. Ah oui, oui. Je sais plus. Attends, il y avait les Platters. Non, mais ce que tout le monde écoutait, quoi, en gros.
Et comment vous avez vécu le moment, justement, où vos disques ont commencé à être ceux sur lesquels dansait toute la jeunesse? Ce que tout le monde écoutait.
Moi, je dansais pas parce que c'était un truc... ça faisait toujours transport en commun, quoi. Non, non, j'aimais pas ça. Puis ça puait. D'ailleurs, à propos de ça, c'est que maintenant que dans les boîtes, c'est interdit de fumer.
Ouais.
Bon, voilà, imaginez l'odeur de transpiration maintenant.
Ah, ça sent la sueur.
Toutes les gondresses qui lèvent les bras, là...
Non mais sérieux.
Non, ça n'a rien à voir.
L'exposition médiatique, la brutalité de l'exposition médiatique au tournant des années 60, tout ce qui a suivi... Vous l'avez vécu comment, ça, entre nous? Ça devait pas être simple pour le jeune homme que vous étiez.
Mais non, mais à part écouter de la musique, comme j'étais, je jouais beaucoup de guitare, je m'amusais d'abord à pas aussi calé que certains, qui s'amusaient à prendre toutes les harmonies d'un Count Basie par rapport à tel ou tel morceau, encore pire, Duke Ellington, comme aurait fait Henry Salvador à l'époque, qui devait jouer de la trompette, mais bon... Il s'est retrouvé à la guitare, mais c'est quand même un mec qui s'est permis de reprendre toutes les harmonies de je sais plus quel morceau de Duke Ellington, qui faisait tout à la guitare. Et chapeau, quoi, parce que un des seuls guitaristes qui pouvait se permettre ça, c'était Freddie Green.
Ouais.
Excellent, un mec que l'on supprime parmi des cuivres. On dit, bon, bah, ça change rien. Et pas du tout. Sur n'importe quelle chaîne, enfin on disait chaîne à l'époque, ou n'importe quel appareil maintenant pour écouter de la musique... On vire Freddie Green, on entend qu'il n'est pas là.
Ouais.
On se dit, manque quelqu'un, et c'est lui. Ben.
Ce que vous dites, c'est que vous l'avez vécu avec beaucoup d'humilité, en fait, avec beaucoup de légèreté,
oui,
par rapport à d'autres.
Bah oui, oui, au contraire, c'est bien. Mais, enfin, je sais pas, faut que ça bouge, faut que ça change. Et ça ouvrait la porte à un tas de mauvais, c'est bien. Et dans les mauvais, bien entendu, il y avait des meilleurs.
Aujourd'hui, c'est quelque chose que vous semblez totalement fuir, l'exposition médiatique.
Ah ouais, c'est pas vraiment mon truc, ça. Non, non, mais c'est... Pour certains, c'est un métier. Alors, y a autre chose que ça comme métier. Il y a des métiers beaucoup plus nobles que ça, je crois.
Comme lesquels? Métier de vivre.
Ébéniste. Ah oui, de vivre. Non, mais ça, c'est dur. Vivre, c'est dur. On commence à vivre lorsqu'on va mourir. On sait là où on s'aperçoit que. Mais bon, bah voilà.
On n'est pas encore là, Jacques.
Si, si. Voilà, voilà.
En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, plus qu'à aucun moment de notre histoire, le monde n'a été autant épris d'images, de soif d'exposition, de quête d'attention. Et je me suis demandé, la culture de la célébrité, ça vous inspire quoi, vous, aujourd'hui?
Alors moi, je ne sais pas, parce que j'avais un problème avant d'ailleurs j'en ai toujours, mais celui dont je vais vous parler date d'il y a très très longtemps. Pour moi, tout écrivain était quelqu'un de mort. Et je voyais un bouquin, non, mais pour moi, le mec était mort, un écrivain était mort. D'ailleurs, j'ai raconté ça à Patrick Modiano, que j'ai bien connu, que je connais bien, d'ailleurs. Enfin, on se voit plus beaucoup, mais... Puis là, en plus, je suis bossu, il faut vraiment que je lève la tête pour le voir. Et donc...
Parce qu'il est très grand.
Très. Et je lui ai expliqué ça, il est parti d'un rire, il a un rire, mais énorme, ce qui est très étonnant de sa part, parce qu'il parle, il parle pas du tout, pratiquement. Enfin, il parle très peu, quand il faut parler. Et pour moi, un écrivain, c'était des gens morts, je ne sais pas pourquoi. Et les musiciens, non. J'imaginais des trucs comme dans un rêve flou, indéfini, je ne sais pas. C'est très bizarre.
Et alors vous étiez quoi quand vous étiez musicien, connu, célèbre? Vous étiez tout flou?
Flou, oui, fou, oui. Bah, d'ailleurs, il y a une chanson, les temps sont flous, les gens sont fous. Et les gens sont flous, les temps sont fous. Mais voilà une chanson qui était bien, le titre est très bien, c'est toujours la même chose, et... sauf qu'il y a le mot Scooby-Doo dedans.
Ça va pas, ça?
Non. Ça, c'était pas mon truc, ça va être pour les rimes. Amour toujours, tendresse caresse.
On va continuer à parler tous les deux après quelques rimes, après un titre où vous accompagne quelqu'un qui vous est à jamais associé, Françoise Hardy, puisque vous partez en voyage, c'est il y a 19 ans, vous êtes sur France Inter avec Jacques Dutronc, c'est la millième de cette émission, ne partez pas.
Il l'a remercié de l'avoir accompagné à la gare.
Vous parlez sérieusement ou vous vous moquez de moi?
Ben non, il se moque pas d'elle, mais regardez, tous ces journaux, ces cigares, tout ça.
Ah, je manque d'originalité, c'est vrai. Savez-vous que nous nous séparons pour la première fois?
Oui, mais enfin, c'est pas très long. Et puis, il part que 15 jours.
Attendez un petit peu. Dois-je comprendre que vous allez passer ces 15 horribles jours sans compter les heures? Puisque vous partez en voyage,
puisque nous nous quittons ce soir, mon cœur fait son apprentissage.
Je veux sourire avec courage. Vous avez posé vos bagages. Marche avant côté du couloir.
Et pour les grands signaux d'usage, j'ai préparé mon grand mouchoir. Le contrôleur crie en voiture. L'enfoiré, il sait pourtant bien
que je dois rester, mais je jure que s'il m'écrit encore une fois, moi je viens.
J'ai mon amour pour ce bagage.
Et tout le reste, on s'en fout. Puisque vous partez en voyage,
mon chéri, je pars avec vous.
Boomerang sur France Inter. Augustin Trapenard.
Il est exactement comme vous pouvez vous l'imaginer. Millénium, millésimé, mille milliards de mille sabords, quelque part entre le parrain de la mafia corse, le poète maudit, et le rocker en vacances, la mèche, le visage allongé, le sourire, un brin ironique avec ses lunettes noires qui vous fixent, je le sens, ce regard et ce cigare dans la bouche. Jacques Dutronc, invité de la millième de Boomerang ce matin pour parler d'une vie entre la Corse, la musique, le cinéma quand même. Vous y allez encore au cinéma?
Non. Bon, j'ai vécu dans le cinéma lorsque j'habitais dans le quartier de la Trinité, là, puisque j'étais à 5 minutes des grands boulevards, j'ai passé ma vie au Cinoche, là, 3-4 films par jour, quand je n'allais pas à Condorcet. Et,
le lycée?
Oui, le lycée. Ben. Et puis, non, le cinéma, j'adorais ça. Ouais. Mais là, ici, il faut aller à Bastia, où il y en a un, à Ilrousse, un cinéma, mais... Bon, c'est assez réduit les programmes, hein. Enfin, je veux dire, bon...
En tout cas, je sais que la salle de cinéma, c'est un lieu qui a beaucoup compté pour vous. Vous parlez de ces cinémas des grands boulevards. Quel lieu est-ce que c'était, la salle de cinéma, pour le jeune Jacques Dutronc?
Oh, c'était respect, là. Mais j'étais amoureux plus des comédiens que du film. Alors, le problème, c'est que je plongeais un peu tel comédien dans tel film, j'y allais, même si c'était mauvais... Et je suivais ce comédien ou cette comédienne. J'étais fou de Kim Novak et donc j'ai dû voir Vertigo, enfin Sueur froide, au moins 52 fois, quoi, dans la même salle. Mais.
Il y a certains détails qui retiennent votre attention quand vous y pensez. L'odeur du cinéma, la couleur des fauteuils, la personne du guichet.
La personne du guichet, non, parce que souvent je trafiquais par la porte de sortie,
oh.
Par l'issue de secours. Bah oui. Bah, vous savez qu'à l'époque, on volait les disques et on passait par là même.
Cette époque bénie, Jacques.
Mais alors, l'odeur dans les salles, ça dépendait des films. Il y avait une salle qui était géniale, qui était rue d'Athènes, toujours le quartier de la Trinité, qui s'appelait Les Agriculteurs. Les sièges devaient faire à peu près un mètre de large, minimum, des gros fauteuils club en cuir. Magnifique, cette salle. Et je sais que le dernier film que j'ai vu là-dedans, c'était... Un film d'Hitchcock, là, comment ça s'appelle, où il y a Harry dedans. Mais qui a tué Harry? Non, c'est pas ça?
Ouais.
Oui, c'est ça. J'ai vu ça là. Bon, c'était une odeur très agréable de cuir, bon, etc.
Si on revient au cinéma, au fond, qu'est-ce que le cinéma vous a appris, Jacques Dutronc? Qu'est-ce qu'on apprend dans les films, pour vous?
On apprend à être autre chose que soi, par moments, c'est dommage. Regardez, on se demande si les gangsters se sont habillés par rapport au Cinoche, ou c'est le Cinoche qui les a habillés, hein, ou le vice-versa, ou ce sont eux qui ont influencé le cinéma, j'ai des doutes, là.
Et vous avez plus appris au cinéma ou à l'école, entre nous?
À l'école, je crois, hélas. Ben non, parce qu'au Cinoche, les sujets étaient pas trop variés.
Oui, mais l'école, c'était pas vraiment votre truc.
Si, pour certains. Non, mais il n'y a aucune raison que les mathématiques me plaisent autant que la musique et le dessin. C'est ça le problème de l'éducation à l'époque. J'adorais un prof de français, et, vraiment, un type formidable, qui me reprochait de puer le tabac, déjà. Et, ouais, il était génial, ce type-là.
Mais attendez, vous aviez quel âge pour puer le tabac comme ça ?
14 ans.
Enfin, Jacques.
15.
Eh ? C'est très jeune.
Ben oui, oui, mais vous savez... Ces choses-là. Hein.
Et comédien, et quand est-ce que c'est devenu votre truc ?
Bon, c'était pas le mien du tout. Hein. C'était plutôt une idée de Jean-Marie Perrier qui m'a fait tourner la première fois. C'était avec Pieplu. Ça s'appelait l'homme, je sais pas quoi, l'homme assis, ou je sais pas quoi, l'homme assis, avec Pieplu, qui regarde la mer et tout ça. Et moi, je suis l'espèce de plagiste. Je n'ai jamais revu ça. C'est le premier truc que j'ai fait.
Et comment il vous a convaincu de le faire ?
Bah parce que j'étais pas prêt à tout, mais moi, si un pote m'a dit de fais ça, fais-le, et tout ça, qu'est-ce que t'en as à foutre ? J'ai dit, bah pourquoi pas.
C'était un désir quand même, au fond de vous ?
Non, non, pas à ce point-là. Non, 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 non. J'avais trop de respect pour les gens que je voyais être vraiment comédiens ou pas. C'est, pour moi, c'était des gens intouchables et inégalables.
Pensez à qui ? Comme grand acteur, là.
À l'époque ?
Ouais.
Ah, il y avait James Stewart, mais quand on lit sa vie plus tard, c'est un peu bizarre. Mais... Enfin bon.
Enfin bon.
Oui,
on va rester sur les films, là.
Oui, oui.
Effectivement. Aujourd'hui, vous désirez quoi ?
Bah, c'est-à-dire que déjà, le fait de désirer, c'est déjà beaucoup. Savoir quoi, ça, c'est autre chose. Après, on a le choix, il y a beaucoup de choses, mais il faut déjà apprendre à désirer. Après, on peut choisir.
Vous savez faire, ça, désirer ?
Oui, oui, oui.
Monter sur scène ?
Ah non, non. À remonter sur scène ?
Ouais.
Il faudrait que ce soit le désir des gens, surtout pas spécialement le mien.
Ouais. Oh, bah, il est là, le désir des gens, Jacques.
Ouais, mais hélas, il faut remplir les salles.
La dernière fois qu'on vous a vu sur scène, c'était avec Johnny Hallyday et Eddie Mitchell. C'est Johnny qui vous avait convaincu de le faire, je crois. Comment il avait fait pour vous convaincre ?
Ah, c'est passé par Eddie Mitchell au départ. Alors bon, 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 bon. Et il m'a dit, qu'est-ce que tu penses de ? Bah, j'ai dit, bien sûr, on demande à l'idole, on le fait ensemble. Donc Johnny, voilà. Et ça, c'est fait. Et la deuxième tournée, c'est Johnny qui m'a appelé lui-même. Et d'ailleurs, je me rappelle d'une phrase, je lui ai dit, mais attends, mon pote, c'est dans un an. Il me dit, ouais, mais je lui ai dit, on sera peut-être mort. Et il m'a dit, mais moi aussi. Je ne savais pas qu'il était devin. Par contre, à propos de devin, puisque je parlais d'Eddie Mitchell à l'instant, il n'y a pas très longtemps, je lui ai dit au téléphone, faut que je me méfie de toi, mon pote, à partir de cette tournée, car tu as chanté un truc, il y a longtemps, qui s'appelait « S'il n'en reste qu'un, je serai celui-là ». Il chantait ça. Donc, il faut que je me méfie, quand même.
Oh.
Ah, méfiance, méfiance.
Quand on voit des gens de sa génération disparaître, autour de soi, Jacques Dutronc. Mais, qu'est-ce qu'on ressent ?
Ça dépend lesquels. Il y en a d'autres, je souhaite qu'ils disparaissent, malheureusement. Mais je ne peux pas les citer parce qu'ils vont se fâcher.
Ah ben non, mais ça, évitons.
Mais pour moi, ils ne disparaissent pas vraiment, vu qu'ils sont toujours au Cinoche ou dans les disques. Ils sont... Mais ils ne disparaissent jamais vraiment, je ne pense pas. Bon,
C'est quelque chose qui vous fait peur, à vous ?
À force, je commence à y penser, parce que tous les gens autour de moi sont en train de la glisser. J'ai toute une génération de potes qui a disparu. Avant, je n'y pensais absolument pas. C'était réservé à d'autres gens, des gens âgés. Mais maintenant que je suis âgé, il faut peut-être y penser. C'est elle plutôt qui pense à nous, je crois, non ? On fait tout pour la convoquer. En même temps. Enfin, je fais pas mal de choses pour la convoquer, mais en même temps, bon, c'est un petit jeu entre nous.
Ouais. Jusqu'à présent, vous l'avez aimé, votre vie ?
Bah, j'ai pas le choix. Ouais, 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 ouais.
Pour le meilleur et pour le pire.
Oui, 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 c'était bien. Enfin, bon, non, mais tout ce qu'il y a de dur permet de se reconstruire et de prendre des forces.
Et s'il y avait quelque chose à refaire, à recommencer, à faire autrement, ce serait quoi ?
Ah bah, ma mère. Appelle-moi ma mère. On avait dit ça à Jean Cocteau. Amène-moi ta mère que je te refasse. Oui, oui.
Vous prenez tout.
Oui, oui, on fait un lot de tout. Et... Non, parce que c'est un shaker quand même, hein, la vie, là. Non ? On met tout ce qu'il y a dedans, on secoue au cas où. Et puis, on verse, on verra bien.
Mais vous buvez plus ?
Ouais, mais admettons qu'il peut en sortir des pensées, des machins, enfin, des phrases, des trucs. Ah non, je ne bois plus, non, non. Ça s'entend ? Ouais, peut-être.
Vous dites qu'on peut ressortir des pensées de ce shaker qu'est la vie, des phrases. Alors s'il y avait une phrase, justement, là maintenant, qui vous venait à l'esprit ?
Ah, j'ai toujours la même. C'est pas très original. Alors, les gens sont si nécessairement fous que ce serait fou, par un autre tour de folie, de n'être pas fou. Voilà, c'est une phrase que je retiens depuis l'âge de 6 ans, je crois.
C'est une phrase de qui ?
Je sais pas, de moi, non, j'en sais rien, non, je sais pas.
Merci infiniment, Jacques Dutronc, d'avoir accepté notre invitation pour la millième de cette émission. Je rappelle que Fume, c'est du best. Le double CD qui réunit le meilleur de Dutronc vient de paraître, je le conseille, alors que je devrais pas conseiller de la cigarette. Mais tout de suite, c'est l'heure des médias, juste après ça, Jacques, quand même.
Oui.
Sont fous, les temps sont flous, c'est rien de le dire. Jacques Dutronc sur France Inter. Tout de suite, c'est l'heure des médias avec Dorothée Barba.